Nature se dit en plusieurs sens, annonce d'emblée le philosophe grec Aristote. Et c'est la première difficulté que soulève cette notion. Parce qu'effectivement, nature, le mot nature est polysémique, il a plusieurs significations, des significations nombreuses et qui peuvent même parfois entrer en contradiction les unes avec les autres, comme nous allons le montrer. Alors tout d'abord, natura, nature, donc c'est un mot qui vient du verbe nascor, qui signifie naître, croître. Aristote précise, nature se dit dans un premier sens de la génération de ceux qui croient, croient au sens évidemment de croître, voilà ce qu'il écrit dans la métaphysique. C'est une poussée, c'est un jaillissement, c'est une éclosion, c'est un mouvement finalement, hein, du non-être à l'être, mais qui a la particularité de ne pas avoir d'autre cause qu'elle-même. La nature est à elle-même sa propre cause, c'est donc une spontanéité. D'où la remarque, d'ailleurs, qui viendra préciser quelques mots plus loin, parmi les êtres, donc c'est toujours Aristote qui écrit cela, parmi les êtres, en effet, les uns sont par nature, les autres par d'autres causes. Donc voilà, il y a cette idée de croissance, de génération, il y a de mouvement spontané. Mais il faut l'enrichir aussi de l'idée d'origine, de l'idée de naissance. Nascor signifie naître. Sauf que nature ne dit pas seulement cette poussée qui n'a d'autre cause qu'elle-même. Elle désigne aussi ce qui en résulte, exactement comme la création est à la fois action et résultat. Et c'est ainsi qu'on a pris l'habitude, par exemple, depuis Aristote, de distinguer la nature naturante, c'est-à-dire le jaillissement premier, de la nature naturée, c'est-à-dire toutes les formes visibles, palpables, sensibles. La nature a donc partie liée avec le sensible et avec la sensation. C'est tout simplement le monde extérieur, l'extériorité qui tombe sous le sens, qui tombe sous nos sens. Voilà ce qu'on appelle nature. Tout simplement le monde extérieur sensible et évident. Celui qui se voit. Évident. Videre en latin, ce qui se voit. Et pourtant, il faut ajouter à déjà ce petit feuilleté sémantique, eh bien, une autre acception qui va peut-être entrer en contradiction avec tout ce qu'on vient de dire. Quand on évoque par exemple la nature d'une chose, ou la nature d'un être, c'est ma nature, ou bien c'est la nature de telle plante d'avoir telle ou telle propriété, eh bien, on désigne par nature ce qui la fait être telle, c'est-à-dire son principe de permanence, ce qui ne change pas. La nature d'une chose, c'est ce qui ne change pas dans cette chose, c'est l'invariant. Bref, on peut le comprendre. En quelques mots, la nature renvoie à des réalités nombreuses qui sont parfois contradictoires. Nature désigne, on l'a dit, hein, autant un processus qu'un résultat. Elle se manifeste dans le changement, mais elle est aussi synonyme de permanence, je viens de l'indiquer. Elle est mouvement, mais en même temps immobilité. Elle devient, puisqu'elle est ce mouvement donc devenu à l'être, en même temps qu'elle est, puisqu'elle est donc un principe de permanence. Alors on voit bien qu'il y a bien des écarts, bien des égards, pardon, et il y a bien des écarts aussi, finalement, c'est un lapsus assez révélateur. À bien des égards, eh bien, la nature est insaisissable. Il y a ce mot merveilleux d'Héraclite qui résume tout cela, finalement, et qui, donc, a toujours avec ce style énigmatique qui résulte de la forme fragmentée de ce qui nous est conservé, de son poème sur la nature, justement, il écrit « La nature aime à se cacher ». Et c'est vrai qu'elle se dissimule. Et les représentations que nous avons de la nature, tant dans l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées, dans l'art, dans la poésie, dans la littérature, eh bien, effectivement, n'éclairent pas la situation, puisque, finalement, la nature nous montre des visages extrêmement variés, extrêmement diversifiés. Prenons l'exemple, effectivement, de la représentation édénique d'une nature donc paradisiaque, d'une nature merveilleuse, dans laquelle effectivement l'homme vit en harmonie, une nature synonyme de pureté, une nature synonyme effectivement de vertu. Et puis de l'autre côté, la nature infernale que désigne par exemple Hobbes lorsqu'il parle d'un état de nature dans lequel l'homme serait un loup pour l'homme, ou bien encore la représentation donc plus scientifique, entre guillemets, d'un Darwin qui fait de la nature le lieu d'une sélection sauvage et aveugle parmi les vivants, ou encore effectivement la représentation extrêmement anxieuse d'un Malthus qui rappelle que la nature finalement n'est pas assez généreuse pour pouvoir nourrir tous les êtres vivants. Donc voilà, elle peut être paradisiaque, cette nature, elle peut être infernale, elle peut être donc idéalisée, elle peut être au contraire, effectivement, donc quelque chose de cauchemardesque. La nature, finalement, c'est un petit peu ce qu'on veut qu'elle soit. Elle nous échappe, et parce qu'elle nous échappe, eh bien, elle peut prendre absolument toutes les représentations que nous souhaitons lui donner.